Connexion Primordiale, le podcast, le sujet du jour, Essentiel Somatics.
Son histoire, les concepts de base de cette approche, les deux branches en individuel ou en groupe, pour se libérer des douleurs, des réflexes de stress.
Connexion Primordiale, le podcast.
Réflexes primordiaux, mode de vie, périnatalité.
Avec Paul Landon
et Ludivine Vaubry
du centre de formation Le Plaisir d'Apprendre, www.apprendre.org,
et tous deux professeurs d'IMP, intégration motrice primordiale, www.reflex.org.
Réflexes au pluriel.
Salut Paul.
Salut Ludivine.
Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Essentiel Somatique, c'est des différents concepts que nous avons appris grâce à la venue de Martha Peterson en ce mois d'octobre 2018,
ouais.
Qui nous a fait un séminaire Essentiel Somatique.
Ouais, de 2 jours, qui était super bien.
Ouais, ouais, avec 25 personnes, 25 participants.
Mm.
C'était le maximum du groupe, enfin de taille de groupe que demandait Martha,
mm.
parce que ça nécessite un bon encadrement. On
ouais.
avait 2 assistants
ouais.
en plus, qui venaient de différents pays. Donc ça, c'était très chouette.
Ça serait bien que tu nous racontes un petit peu ce qui a motivé l'invitation de Martha Peterson.
Oui.
Comment tu as découvert son travail et puis quelques petites
pourquoi on l'a fait venir au CFPA.
Ouais.
Voilà. À la base, ça, c'était pour répondre à une question que j'ai depuis très longtemps sur les réflexes archaïques, qui est une de mes passions dans la vie, puisque ça aboutit à la création de l'IMP, l'intégration motrice primordiale, et en particulier d'un réflexe qui m'a beaucoup intéressé et interpellé toute ma vie, c'est ce que Paul Denison appelle le réflexe tendineux de protection, donc qui est un concept enseigné dans les cours de Brain Gym depuis 40 ans et plus, qui fait partie de ce qu'on appelle la dimension de la focalisation. Et dans cette dimension de la focalisation, qui est la dimension avant-arrière, on parle de la chaîne musculaire postérieure et de comment sous stress, on va plutôt s'éloigner de la source de stress, plutôt une réaction de fuite, ou au contraire aller vers la source de stress, une réaction d'attaque, avec une modification du tonus musculaire au niveau des genoux, au niveau du bassin, au niveau des épaules et du cou.
Mmh.
Et que donc, en Brain Gym, on se rend compte que la plupart des enfants en difficulté d'apprentissage et des personnes en situation de stress ont ce réflexe qui est nommé par Paul Denison réflexe tendineux de protection actif, c'est-à-dire une rétractation de la chaîne musculaire postérieure, et qui de ce fait-là les maintient en situation de stress et font que, en résultante, ils ont des difficultés à principalement se concentrer et à comprendre, à être dans des situations de compréhension, et donc ça va affecter l'apprentissage. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais je trouve qu'en Brain Gym, la manière dont on évalue et les théories qu'on apporte sur ce réflexe sont pas très approfondies. Il n'y a pas énormément d'informations. Paul Denison, il a donné un certain nombre de choses, mais c'est pas hyper approfondi. Surtout quand on le compare à des dimensions différentes utilisées en Brain Gym, que sont la dimension de la latéralité ou du centrage.
Oui, là, qui sont beaucoup
voilà,
plus
qui sont beaucoup plus documentées, étoffées,
ouais.
absolument.
Mmh.
Donc moi, à la base, je voulais en savoir plus là-dessus. Et puis quelques années plus tard, dans les années 90, j'ai rencontré Svetlana Mazgutova de Russie, qui était à l'époque professeure de Brain Gym et qui lançait sa méthode sur les réflexes archaïques et qui, elle, parlait de ce réflexe, mais qu'il avait rebaptisé sous le nom, enfin qu'il présentait sous le nom feu rouge, feu vert.
Ouais.
Et là, dans ses manuels de cours, elle donnait un petit peu plus d'informations, mais je dois avouer que je ne les comprenais pas. J'ai essayé de croiser les informations de Svetlana Mazgutova avec les informations que j'enseignais et que j'avais apprises de Paul Denison, mais ça n'avait pas de sens pour moi et je n'ai pas pu obtenir de réponse qui satisfaisante ni de Paul Denison ni de Svetlana Mazgutova, et donc je restais un peu frustré par rapport à ce réflexe tendineux de protection.
Alors que dans la pratique, et par contre, les outils qu'a apporté Paul Denison pour détendre les mollets, etc.,
voilà,
avaient
ça.
Des résultats.
En fait,
dans la pratique,
voilà,
c'est pas de souci.
C'est
en
ça.
Fait.
En fait, mon problème n'était pas un problème de pratique et de résultats, c'était plus de comprendre qu'est-ce qui se passe.
Oui.
C'est toujours été mon idée, c'est que les mouvements proposés par Paul Denison pour libérer ce réflexe tendineux de protection, RTP pour les intimes, c'est flexion du pied, allongement du mollet et d'autres exercices qu'il appelle les activités d'allongement, ça marche extrêmement bien. On a des très bons résultats sur les capacités d'apprentissage, de concentration, de compréhension. Mais je ne comprenais pas comment ça fonctionne, à quel réflexe ça fait appel. Ça se croise plus ou moins bien avec les notions qu'on connaît sur les réactions de stress, de fuite, de lutte, d'inhibition de l'action, etc. Mais pas à 100%. Et pareil, dans le cours de Mazgoutova, elle appelle ça le réflexe, elle appelle ça un réflexe de vie, de protection, mais elle a renommé feu rouge, enfin, elle a utilisé la terminologie feu rouge, feu vert. Je me suis toujours demandé d'où ça venait, et ni l'un ni l'autre n'était en mesure d'apporter, en tout cas, les réponses aux questions que moi j'avais. Voilà. Donc voilà un peu d'où est partie mon idée de base. Et un jour, j'ai entendu parler, je pense c'est vers 2016, des travaux de Thomas Anna. Voilà. Thomas Anna, à la base, c'était un enseignant de la méthode Feldenkrais, qui sont des mouvements dits somatiques, de travail corporel. Et lui, il a modifié ses mouvements, et surtout, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Somatics, qu'on pourrait traduire en français par les somatiques ou l'approche somatique, où il va ajouter à la méthode Feldenkrais de nouveaux concepts qui pour moi sont absolument révolutionnaires et absolument majeurs. Et là, quand j'ai lu ça en 2016, j'étais comme fou, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui prenaient sens. Il expliquait clairement ce qu'il appelait les réflexes de stress et les trois schèmes réflexes de stress, que sont le réflexe feu rouge, le réflexe feu vert et le réflexe de trauma. On va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas lui, parce qu'on
fera un podcast sur le contenu podcast spécifique pour décrire ces réflexes.
Ces réflexes-là. Et là, du coup, ça m'a étonné parce que cette histoire feu rouge, feu vert, je croyais que ça venait de Mazgoutova, quand en fait, ça venait de Thomas Anna, puisque son livre date des années 80 et ses travaux des années 80. Malheureusement, il est mort en 1990 d'un accident de voiture. Donc, j'ai pas pu me former avec lui, j'ai pas pu le rencontrer. Il n'y a pas d'association véritablement constituée qui réunit les gens de sa méthode. Et en cherchant, un jour, je suis tombé sur un livre de Martha Peterson.
On y vient.
Voilà, désolé pour ce genre préambule. Qui, elle, a apparemment enseigné cette méthode et modernisé cette méthode, et elle a appelé ça le somatic education, l'essentiel somatics. Et du coup, j'ai acheté son livre, je l'ai lu, j'ai trouvé ça très intéressant. Elle est assez sobre sur les concepts théoriques, elle reprend les petits concepts théoriques de Thomas Anna, et surtout, elle clarifie la manière de pratiquer les mouvements. C'est très clairement expliqué dans son livre, avec beaucoup de photos et beaucoup de petits éléments pour bien comprendre comment faire les mouvements. Donc, j'ai vu qu'elle avait aussi fait des DVD que je me suis procuré, et que en 2017, je me suis mis à pratiquer, et en particulier motivé d'une part par l'intérêt théorique à mieux comprendre ce qui se passait de mon interrogation initiale, et aussi parce que j'avais des terribles douleurs de dos dues à une hernie discale, et que ces exercices le livre de Martha Peterson s'appelle Move Without Pain, c'est-à-dire bouger sans douleur, et que donc ça me motivait énormément. Juste une petite histoire, si je me suis lancé dans l'achat du livre de Martha, etc., c'est que j'avais vu une critique très positive de Frank Fahrenkisch. Frank Fahrenkisch, voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup, d'ailleurs dont on va traduire des livres dans notre maison d'édition Ressources Primordiales. Et Frank Fahrenkisch recommandait chaudement le livre de Martha et les mouvements présentés par Martha. Et donc pour moi, ça a fait que je n'ai pas hésité et que je me suis procuré livre et DVD de Martha. Et j'ai commencé à pratiquer ces mouvements. Malheureusement, au moment où je pratiquais, ma hernie discale était trop avancée et je n'étais pas en mesure de faire correctement les mouvements. Je sentais qu'ils me faisaient du bien, qu'ils m'apportaient quelque chose, mais je ne pouvais pas les exercer pleinement parce que j'avais trop de peur et de contraction dans mon corps, et je n'étais plus à même de pratiquer ces mouvements. Bien que je sentais qu'il y avait quelque chose derrière. Donc il fallait que j'approfondisse. On a invité Martha et elle a accepté de venir. Et donc ça vient de se matérialiser ce mois d'octobre.
Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a appris du coup dans ce stage, comment ça s'est déroulé et quelles sont les notions à la fois théoriques et puis en quoi a consisté la pratique dans ce stage de 2 jours, c'était 2 jours.
Voilà. Alors en fait, avant de parler du stage, il faut dire qu'il y a eu 2 aspects. Quand on a rencontré Martha, il y a le stage qu'elle nous a donné et à côté on lui a demandé des séances individuelles. Parce qu'il se trouve que le travail de Thomas Anna a ceci de particulier, c'est que il y a à la fois des mouvements qui sont à pratiquer en groupe ou en individuel, donc on va appeler les somatics, les mouvements de somatique, les mouvements corporels, et à côté de ça, il y a un travail en séance individuelle, où là, le praticien va guider avec son corps les mouvements, ou certains types de mouvements, dans le corps de la personne, du patient, du client. Et donc, on a eu ces deux approches qui ont deux cursus de formation différents. Donc, nous, on a eu accès à un cursus, mais on a eu accès aussi aux séances individuelles. Donc, on a eu une notion, on a eu deux séances chacun, de à quoi ressemble le travail dit clinique de somatique. Et c'est deux choses, non pas complètement différentes, mais complémentaires, mm-hmm. et qui vont nous apporter, je pense, deux corpus complètement mmh. différents et complémentaires et extrêmement intéressants, mmh. qui se basent sur la même théorie. Donc effectivement, les principes théoriques de Thomas Anna, ils sont triples. Enfin, il y a trois principes de base. Le premier principe, c'est de dire que sous stress, on va rentrer dans trois schèmes de base, les trois schèmes qu'il va appeler les réflexes de stress. Mmh. Il y a le réflexe de stress feu rouge, le réflexe de stress feu vert et le réflexe de stress de trauma. On ne va pas les décrire ici, mais c'est de dire que selon le stress qu'on rencontre, notre corps-esprit, notre soma, parce qu'il va parler de soma, c'est toutes nos sensations que nous avons, nous allons réagir soit par la réaction feu rouge, soit la réaction feu vert, soit la réaction dite de trauma. Ces réactions de stress, donc ces schèmes réflexes de stress, vont du coup restreindre notre fonctionnement et créer ce qu'on pourrait appeler, enfin ce qu'il appelle des amnésies sensorimotrices, ASM. Une amnésie sensorimotrice, c'est-à-dire que progressivement, on arrête de pouvoir fonctionner correctement. Notre corps, cerveau, muscles, système nerveux désapprend certains types de mouvements et nous maintient dans une posture, si on peut dire, et que du coup, eh bien, on se met à fonctionner à moindre régime, avec moins de compétences, avec moins de potentiel, et que c'est ça qui, à terme, va entraîner douleur et vieillissement. Lui, il prétend qu'un être humain qui est affranchi de ses réflexes de stress, qui vit avec un mode de vie plus naturel et sans choc physique et traumatisme trop violent, va vieillir dans des très bonnes conditions, c'est-à-dire en gardant une posture droite, en gardant un bon tonus énergétique, un bon tonus postural, comme on va le trouver dans beaucoup de pays traditionnels où les gens vont jusqu'à un âge très avancé être souples, pouvoir continuer à s'accroupir, à marcher et à faire les activités physiques de la vie quotidienne. Alors que quand on a subi ces réflexes de stress pendant des années, eh bien, l'amnésie s'installe et un vieillissement va se faire avec une posture affaissée, des difficultés de dos, des douleurs et des tas de pathologies.
Et puis on n'en a pas trop parlé, mais tout ce que plus largement au niveau de la façon dont on se ressent, la façon dont on voit la vie et la façon dont on ressent les choses, donc au niveau émotionnel, on peut ça n'a pas été trop développé dans ce stage, mais ça a été évoqué.
C'est un des facteurs importants dans cette approche, effectivement, c'est que les réactions de stress sont des réactions face à des chocs physiques, mais aussi émotionnels, nos pensées, nos sensations, et que pour nous protéger au niveau émotionnel et au niveau des sensations désagréables, on va se mettre dans ces différentes postures de stress qui vont enclencher une amnésie sensorimotrice et à terme douleur puis vieillissement.
Donc c'est comme si quand on avait des pertes dans notre schéma corporel, on a des pertes de la représentation de nous-mêmes.
Exactement.
En fait, et de l'image de nous-mêmes.
Exactement. Ouais, ouais. Exactement.
Donc c'est une approche quand même très globale qui part du corps mais qui peut aboutir à des changements très profonds.
En fait, dans cette approche justement, on ne peut pas dire on part du corps ou quoi, parce que Thomas Anna ne veut pas utiliser le mot corps ou le mot esprit ou le mot mental ou quoi que ce soit. Il dit, à partir du moment où on ferme les yeux, c'est pour donner un exemple, si je ferme les yeux, tout ce que j'éprouve est sensation.
Tout est une expérience sensorielle.
Tout ce que je vis, quand je pense à des choses, ou quand je fais des choses, ou quand j'ai des émotions, ou quand j'ai des pensées, tout ça, ce sont des sensations. Mmh. Et ces sensations, c'est ce qu'on appelle des sensations qui sont corporelles. Et donc, il va parler du soma. On est un soma, c'est-à-dire un organisme qui ressent. Mmh. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où on dit le corps, on sépare une partie de nous. L'esprit, on sépare une partie de nous. Alors on pourrait dire le mot être, on est un être, et que lui appelle soma, parce que ça veut dire un être de sensation. Donc,
c'est bien que tu expliques ça, parce qu'on comprend mieux le nom de la méthode.
La méthode, ouais. Voilà, ce qui s'appelle somatique éducation, c'est-à-dire éducation au soma, c'est-à-dire à notre fonctionnement global en tant qu'être. Et Martha Peterson a repris le mot soma et elle appelle ça essentiel somatics, c'est-à-dire les somatiques essentielles, c'est-à-dire ce travail global. Donc Thomas Anna a cette vision très très globale des choses et évidemment la question qu'on se pose c'est comment se libérer de cette amnésie sensorimotrice et de ces schèmes réflexes. Et bien la solution qu'il propose, ça tient en un mot, s'appelle pendiculation. Ce mot pendiculation, on y reviendra, mais en gros, le mot pendiculation, c'est ce qu'on fait quand on s'étire le matin et qu'on bâille. On fait un mouvement où on contracte le corps, on bâille, et puis on relâche le corps. C'est les mouvements naturels. Souvent, on dit que les animaux, ils s'étirent. En fait, le vrai mot, c'est qu'ils pendiculent. Quand un chat se lève ou un chien, il fait des mouvements avec son corps. Ces mouvements qu'on appelle communément étirement, le véritable nom, c'est pendiculation. Et donc, l'idée, c'est de dire... Aucun animal ne fait du stretching, aucun bébé ne fait du stretching, aucune personne qui vit dans un peuple traditionnel ne fait du stretching. Par contre, ils pendiculent tous. Le bébé pendicule beaucoup, les animaux pendiculent beaucoup, les personnes qui vivent dans un mode de vie plus primitif pendiculent beaucoup. Et nous, par nos modes de vie, c'est vrai qu'on a tendance à peu pendiculer parce que souvent, notre corps est tellement plein de tensions, on manque de mouvement, on n'est pas à l'écoute de notre corps, on est happé par les outils informatiques et les écrans, et du coup, on ne bouge plus suffisamment notre corps et on pendicule moins.
Donc, l'idée... Et puis, notre ressenti s'amoindrit, interne. Donc, voilà. Donc forcément... Le besoin de pendiculer, il émane aussi du fait qu'on ressent
les choses
finement et de manière subtile des tensions et qu'on va réinitialiser un peu tout notre système en pendiculant. Donc si on ressent moins, on pendicule moins.
Tout à fait. Donc son idée, c'est d'abandonner le concept d'exercice qui a pour but d'obtenir un résultat. Le concept de base est très intéressant, c'est de dire pour que le cerveau se libère de quelque chose, il faut le revivre aller dans la direction où le cerveau veut aller et ensuite de relâcher tout doucement et en conscience pour prendre conscience de l'amnésie sensorimotrice et pouvoir s'en libérer. Donc c'est ça l'idée, on développera ça dans un autre podcast, mais voilà l'idée de base. C'est une toute nouvelle manière de concevoir les exercices de rééducation, puisque là on sort justement de cette notion d'exercer quelque chose, parce que le but c'est qu'au contraire de réveiller le corps et de se libérer de l'empreinte réflexe.
Donc nous, on a beaucoup pratiqué pendant les deux
jours
ces activités de pendiculation, sous différentes formes, dans différentes positions, des mouvements de base. Là, c'était vraiment un stage qui nous expliquait les mouvements, nous faisait vivre les mouvements de base. Donc on a fait l'expérience de, 7-8 mouvements peut-être, allongés. On les a repris un petit peu assis pour avoir des variantes. On a répété jusqu'à ressentir plus finement les choses, prendre conscience, réussir à contracter, réussir à relâcher, réussir à trouver notre position neutre. Et c'est vrai que ça a été tout un déroulé. Il a fallu beaucoup de répétitions
pour qu'on arrive à sentir, c'est-à-dire les principes de base. Parce que c'est vrai qu'on est tous partis avec cette notion de on va faire des exercices pour libérer le feu rouge, le feu vert ou le réflexe de trauma. Et en fait, c'est pas du tout une histoire d'exercice, mais de prise de conscience. Parce qu'il faut que le cerveau, corps, soma prennent conscience de quelque chose pour pouvoir s'en libérer. Et au début, c'est pas du tout ça. Donc on apprend à retravailler au sol, on apprend à travailler d'abord le dos, la chaîne musculaire postérieure, la chaîne musculaire antérieure, la chaîne musculaire latérale. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a des gens chez qui le bassin ne va pas dans la direction préconisée par l'exercice tout droit, parce qu'on a des déséquilibres droite et gauche. Donc il faut aller travailler le bassin peut-être en diagonale. Et ensuite, pour retrouver une position neutre, même chose pour les épaules, même chose pour différentes choses. On essaye de faire des exercices et on s'aperçoit qu'on bloque la respiration. Donc là, il faut passer par de la rééducation, de la pendiculation des côtes et des muscles respiratoires. Et donc, c'est très, très intéressant parce que pendant tout le stage, on réveille notre prise de conscience de mouvement. Moi, il y a un mouvement qui doit se faire sur le côté, où on est censé juste, alors qu'on est penché sur le côté, lever l'épaule et la hanche du même côté. Pour tous ceux qui connaissent le réflexe spinal de Galland,
c'est de contracter
la taille pour mobiliser le réflexe spinal de Galland et le carré des lombes. Eh bien, moi... je vois ce mouvement, je connais ce mouvement, mais à chaque fois que je le fais, je cambre en même temps le dos. C'est-à-dire que, alors qu'il s'agit que d'un mouvement qui se fait latéralement, eh bien en plus j'ai un mouvement dans le sens avant-arrière. Et pour moi, une semaine après le stage, en pratiquant tous les jours, il y a encore cette tendance. Mais justement, cette tendance qui fait que mon dos tire à cause de ma hernie discale, ou je dirais plutôt qui était à la cause de créer une tension et qui a fini par gérer une hernie discale chez moi. Donc, il y a des muscles de mon corps que je ne sais pas faire fonctionner comme il faut, ou je devrais dire que je ne sais pas aussi, dans certains cas, ne pas activer.
C'est
et qui veulent toujours s'activer.
Des compensations.
Voilà, des compensations qui sont mises en place. Donc là, ça nous a apporté beaucoup de choses au niveau de la prise de conscience de notre fonctionnement pour pouvoir se libérer du joug, en quelque sorte, présenté par ces schèmes de stress.
Puis avec tout un déroulé d'exercices, une progressivité qui était intéressante, qui tenait compte du rythme de chacun, où chacun a pu s'y retrouver. Et ce que j'ai aimé aussi par rapport à la pratique avec les DVD, c'est qu'on avait des consignes orales, donc tu traduisais Martha, et donc chacun, à la mesure de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il comprenait, ou surtout de ce qu'il ressentait de son corps, effectuait les exercices, et seulement après plusieurs minutes de pratique, Martha se mettait au sol et nous montrait voilà ce que je m'attendais à ce qui se passe. Ouais. Et là, on s'aperçoit évidemment peut-être des décalages avec ce qu'on a fait, qui ne sont pas un manque de compréhension intellectuelle de la consigne, parce que toutes les consignes sont extrêmement simples, mais un manque de conscience corporelle.
De comment il faut faire.
Et il se dit, mais qu'est-ce que je dois activer pour réussir à faire ça. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette pédagogie-là.
Tout à fait. Le simple mouvement du bassin, de antéversion, rétroversion du bassin en position couchée, qui est censé être un mouvement basique de l'être humain, que tous les bébés font naturellement, on se rend compte qu'on a une énorme amnésie au niveau du bassin. Mais au niveau des épaules, on retrouve la même chose, au niveau du dos, au niveau du cou, puisqu'on travaille des mouvements sur le dos, des mouvements sur le ventre, des mouvements sur le côté. C'est extrêmement intéressant.
J'ai aimé aussi le fait d'apprendre de pas dépasser son seuil, de pas aller trop loin dans le mouvement et de respecter ça. Elle a beaucoup insisté là-dessus.
Ça, il m'a fallu du temps. Et encore maintenant, je me rends compte que je vais faire le mouvement trop fort, avec toujours
trop
cette...
trop
fort, trop loin, trop vite. Inconsciemment, dans mon cerveau, il y a vas-y, plus tu le fais, et plus ça ira mieux, et vas-y à fond, et tu auras de meilleurs résultats. Alors qu'il faut toujours rester en deçà du maximum et pour apprendre à réveiller sa conscience corporelle et au contraire forcer. Et va donner le résultat inverse. Et donc au début, je n'obtenais pas le résultat escompté parce que c'était trop fort, trop loin, et je ne ressentais pas ce qu'il faut. Donc c'est des exercices tout en retenue, puisque le but, c'est d'avoir une conscience corporelle plus affinée. Et donc voilà. Alors,
les séances peut-être
quelques mots. Une énorme chose, c'est les séances individuelles qu'on a reçues de Martha. Bien, les séances individuelles se base exactement sur le même concept, c'est-à-dire que le but, c'est de libérer dans notre corps les trois réflexes de stress, le but, c'est de libérer l'amnésie sensorimotrice, d'utiliser la pendiculation pour libérer ça, mais voilà, quand on souffre de douleurs chroniques, de schèmes moteurs erronés amnésiques qu'on a, comme toi et moi, depuis plus de 10 ans, ou parfois 20 ans, ou quoi, eh bien, la prise de conscience ne suffit pas, c'est-à-dire que le professionnel apprend à regarder d'abord notre posture, de voir dans quel schème moteur on est, et pour ensuite nous montrer les mouvements adéquats. Mais quand on fait les mouvements, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a une amnésie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment faire le mouvement. Donc qu'est-ce que va faire le professionnel ? Il va nous guider en attrapant différentes parties du corps, bras, jambes, éventuellement positionner la main sur les côtes ou le bassin, nous guider dans le mouvement à faire. Et nous faire ensuite pousser légèrement, enfin, le praticien va donner une petite poussée pour nous faire prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps, dans une direction, dans la direction inverse. Ça parlera beaucoup aux gens qui ont fait nos cours en IMP, parce que quand on travaille sur un réflexe, on fait toujours aller dans le sens du mouvement, dans le sens contraire. Ben là, c'est exactement ce qui est proposé, avec un relâchement très lent et très progressif. Pour moi, ça a été une révélation énorme. Dans ma vie, depuis l'âge adolescent, j'ai eu des séances d'ostéopathie. Et je suis un fan de l'ostéopathie et je continuerai à l'être parce que l'ostéopathie, je trouve, c'est une méthode absolument majeure. Mais l'ostéopathe nous fait quelque chose à nous. C'est-à-dire qu'il nous fait une technique et il nous fait du bien et c'est super bien. Mais une fois que la séance d'ostéopathie est finie, c'est fini. Parfois, ça arrive que l'ostéopathe nous donne un petit conseil, faites ceci, faites cela. Parfois, j'ai vu un ostéopathe qui me dit étirer ceci ou faire tel type de mouvement, un peu comme un kiné nous donne des exercices. Mais c'est extrêmement limité. À la base, l'ostéopathe nous fait des techniques, on ressort, on va mieux, et basta.
Ça continue à s'équilibrer pendant plusieurs jours.
Bien sûr, bien sûr, ça a un effet pendant plusieurs jours, bien entendu, et parfois des semaines, parce que l'ostéopathe va véritablement débloquer, et nous réorganiser au niveau de notre corps. Néanmoins, c'est pas une critique, mais l'ostéopathie, c'est une approche thérapeutique, c'est une médecine manuelle, ce n'est pas une approche éducative. Mon corps n'apprend rien. On le remet en place de l'extérieur, mais il n'a pas appris où est son dysfonctionnement. La méthode clinique proposée en essentiel somatics, c'est une approche qu'on pourrait dire d'auto-ostéopathie éducative. Ça, c'est moi qui ai inventé ce mot, auto-ostéopathie éducative. Ça veut dire que le praticien, au lieu de me corriger, il va me faire prendre conscience de comment mon corps fonctionne et de m'aider progressivement à remettre, si je puis dire, mon corps dans le droit chemin par des techniques de prise de conscience. Donc on va travailler sur les douleurs, on va travailler sur toutes les difficultés posturales, etc., etc. Sauf que c'est moi qui vais réapprendre à le faire. Mmh. Et pendant la séance, tout le but, c'est de comprendre comment mon corps dysfonctionne, comment le refaire fonctionner correctement, réveiller les zones d'amnésie sensorimotrice, rependiculer de manière assistée avec le praticien, puis ensuite de manière autonome pour pouvoir continuer chez moi à garder cette conscience sensuelle et éviter de retomber dans ma lésion de type ostéopathique, myofaciale. Et donc pour moi c'est extraordinaire parce qu'on va étendre le travail de l'ostéopathie à un travail de prise de conscience en fin de compte, où c'est plus quelque chose qu'on me fait à moi, mais c'est quelque chose qu'on m'apprend à faire pour que je puisse me faire tout seul. Et c'est pas une technique de qu'on pourrait dire d'auto-ostéopathie où je me cherche à me remettre une vertèbre ou quelque chose. C'est un apprentissage, un réapprentissage de mon propre fonctionnement pour me sortir de schème de douleur, de dysfonctionnement, de mauvaise posture, dans lequel on est enfermé parfois depuis hyper longtemps.
Et parce que ça, il n'y a que la personne qui peut le faire elle-même.
Exactement.
Finalement, ça peut
exactement
pas être fait et de l'extérieur vers l'intérieur.
Exactement. Et pour moi, c'est renouer avec la source de ce que je fais depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire des approches éducatives, c'est-à-dire d'enseigner aux gens comment fonctionner mieux. C'est ce que fait le Brain Gym, c'est ce qu'on fait en IMP, c'est ce qu'on fait en Original Strengths, et les différentes approches que j'aime enseigner au CFPA, c'est vraiment
basé sur l'observation.
Voilà, basé sur l'auto-observation, le ressenti. Quelqu'un est là pour me guider, pour me refaire sentir les choses, mais c'est toujours basé sur un ressenti. Et ça, c'est extraordinaire. Et pour moi, là, je pense qu'on est face à une voie d'avenir qui pourrait se développer et qui est en train de se développer aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, grâce, entre autres, au travail de Martha Peterson, qui a modernisé, dépoussiéré l'approche de Thomas Hanna, puisque ça n'avait pas été fait du fait qu'il est décédé, et qui l'a étendu en travaillant sur une notion plus approfondie des réflexes, des schèmes moteurs, du travail qui se fait debout, assis, couché.
Ça, c'est très intéressant.
On l'a pas dit, mais elle est danseuse. Oui. Elle a dansé toute sa vie. Elle était masseuse ensuite. Et elle a appris finement le fonctionnement du corps humain pour l'avoir expérimenté sur elle et avec des milliers de patients. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc là, il y a deux aspects, l'approche clinique et l'approche de mouvement. Alors évidemment, en fait, c'est une seule et même approche, puisqu'il s'agit toujours de retrouver ces mouvements, de se libérer par l'appendiculation de schèmes moteurs, mais dans un cas, je le fais en autonomie, personne ne me touche, j'apprends les mouvements et je le fais, et dans l'autre cas, quelqu'un vient me guider et ensuite me donner les mouvements, entendons-nous bien, on est tous les deux ressortis de nos séances avec des mouvements à faire, qui sont variations et des personnalisations.
Pour moi, les mouvements ont pris un sens complètement différent. Alors peut-être qu'il y a un côté plus quand ça passe par l'intellect, ou je ne sais pas, mais je ne pense pas réellement que c'est cette expérience que j'ai faite. La pratique des mouvements, quand on avait fait avec les DVD, c'est une chose. C'est vrai que j'allais trop loin, trop fort, comme toi, trop vite, etc. Et là, on n'a pas le temps de prendre la mesure, l'importance de tout ça face au DVD. Mais je pense que je n'aurais pas forcément vécu le stage non plus avec la même profondeur si je n'avais pas reçu la veille du stage, la séance individuelle qui avait déjà mis le doigt sur mon fonctionnement, des grandes tendances au niveau de la posture. Et du coup, j'ai pu pratiquer les mouvements vraiment avec une intensité différente. Je pense que si je n'avais pas eu ce focus vraiment sur, dans mon corps,
tout à
moi,
fait.
Comment ça se passe. Quoi.
Donc
là, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, les gens ne peuvent pas recevoir.
Non, il n'y a aucun praticien certifié en France ou même en cours de formation en France. Il y en a beaucoup en Angleterre, en Irlande. On est sûr parce qu'on avait une assistante qui est venue, qui est anglaise, qui vit à Bruxelles, donc en Belgique, et qui est formée. Et c'est tout. Il y a peut-être des gens formés, je suis pas sûr, en Italie ou dans d'autres pays d'Europe, mais en tout cas en langue française, Belgique, Suisse, France, il y a zéro personne, si ce n'est cette anglaise qui est charmante, qui a été assistante pendant le stage. Donc voilà, nous on voudrait voir ce que ça va donner, mais dans l'idée, c'est de développer ces deux approches en France. L'approche d'apprendre les mouvements, faire connaître ces mouvements, parce que l'intérêt au niveau de tous les gens qui souffrent, qui ont des douleurs, des difficultés posturales, des réflexes de stress est immense. C'est un complément à l'IMP absolument idéal.
Oui, pouvoir intégrer dans des séances d'IMP des mouvements de pendiculation. Peut-être
évident.
Ça peut intéresser les gens qui font du groupe comme des profs de yoga.
Absolument.
Des gens qui s'intéressent au pilates.
Absolument.
Voilà, je
absolument.
Trouve que c'est vraiment très très complémentaire.
Absolument. Oui, oui.
Donc ça, c'est la première chose, pouvoir montrer, guider des personnes dans ces mouvements-là et l'utiliser à usage professionnel. Parce que pour l'instant, le stage qu'on a fait, c'est à usage personnel, on peut dire ça comme ça.
On apprend à faire les mouvements sur soi, à bien les comprendre, à les mettre en pratique pour soi. Et là, c'est 2 jours. Voilà, c'est 2 jours. Après ça, il y a un stage de 4 jours qui va permettre d'utiliser ces mouvements, de les comprendre vraiment plus en profondeur avec d'autres variantes et pourquoi on arrive ou pas à les faire correctement, d'aller plus en profondeur dans la théorie. Donc dans ce stage de 4 jours, on apprend à utiliser avec nos clients, en séance individuelle ou en petit groupe, bien sûr, que l'on guide ces mouvements-là.
Mais juste les mouvements, sans...
Pas le travail clinique. Non. Là, le travail clinique, c'est une autre formation de plusieurs fois une semaine. De tête, je crois que c'est 6 stages de 6 jours ou 6 stages de 7 jours répartis sur 3 ans avec des études de cas, etc. Ce qui n'est pas énorme par rapport à une formation d'ostéopathe, etc. Évidemment, il ne s'agit pas de faire de la manipulation sur quelqu'un, donc on ne prend pas des dangers ni rien. Il s'agit de guider la personne pour qu'elle pendicule dans ses muscles amnésiques et qu'elle s'auto-équilibre.
Mais
ciblé de manière extrêmement fine. Pour moi, ce vécu de séance est absolument semblable à une séance d'ostéopathie, à ceci près que je suis ressorti avec une compréhension de ma posture, de mon fonctionnement, de mes réflexes de stress et de la manière de les équilibrer.
Et avec très peu de mots. Finalement.
Très peu de mots, tout par le ressenti.
Tout
par le ressenti. Donc voilà un petit peu. On fera d'autres podcasts pour expliquer différents concepts, mais on voulait vous faire une présentation globale de ce qu'on a vécu avec Martha Peterson et de son approche essentielle somatique, approche qui, il faut le dire, vient essentiellement du travail de Thomas Hanna, qui lui-même a tiré beaucoup de choses de la méthode Feldenkrais. Donc il y a une évolution, une modernisation de tout ça. Et donc on veut étendre ça en France. Voilà.
Et à bientôt pour la
suite. À bientôt pour la suite. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas et on sera un plaisir d'y répondre.
Merci Paul.
Merci Ludivine.